Alors, je voulais d'abord, peut-être dans un premier temps, rappeler les enjeux de la révolution industrielle, pas sur les éléments historiques avec les dates, mais bien comprendre que quand on parle de révolution industrielle, il y a grosso modo trois grandes révolutions qui interviennent dans la même période, que ce soit en France, en Angleterre ou en Europe. Une révolution agricole, deux, une révolution, ou en tout cas un changement d'échelle au niveau de la démographie, et trois, des découvertes qui font que les processus d'organisation vont être profondément modifiés, et donc les rapports dans la société entre les uns et les autres. Et ces trois éléments, moi je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais prendre deux exemples. En Angleterre, par exemple, il y a une grande réforme agraire qui est organisée, qui est en fait un accompagnement, qui fait qu'il n'y a plus du tout, à la fin du 18e siècle, il n'y a plus du tout de terrain agricole collectif. Tout est renvoyé à de la propriété privée. Les clôtures sont organisées et il y a deux phénomènes à cela qui aboutissent, qui ont comme conséquence. Un, le fait que il y a une grande partie de la main-d'œuvre agricole qui vivait avant de ces champs collectifs qui va dans les villes. C'est-à-dire qu'on a un exode rural important en Angleterre, premier élément. Qui est très important pour comprendre comment on se retrouve à une concentration urbaine en Angleterre plus rapide qu'en France, où on va voir perdurer, j'ai envie de dire, un système agricole plus traditionnel. Et ce phénomène va beaucoup contribuer au développement économique de l'Angleterre dans sa capacité à se concentrer en usine, en fabrique. Hein. À l'époque, le terme, c'est plutôt des fabriques. Deuxième élément, hein, c'est la question de la révolution industrielle, c'est-à-dire des progrès, qui font que profondément, on se retrouve dans une situation où, dans ce siècle-là, il y a d'abord une vraie croyance dans le progrès. Hein, la philosophie des Lumières a pas simplement vu aboutir, on va dire, avec la Révolution française. Vous avez des courants bourgeois qui croient profondément que la question du progrès de la science est un élément important. Et donc, on aide énormément dans cette période-là la science. On a une grande vénération sur toutes les découvertes. Hein, Newton, et même s'il est... j'ai envie de dire, ces découvertes sont avant. On sent bien que la période fait que toute une série d'éléments vont pousser, soit parce qu'on a plus de population à nourrir, soit parce que y a des éléments qui sont découverts, mais aussi qui sont dans un processus d'industrialisation. On se retrouve donc dans une vraie modification du rapport dans la société par rapport au système ancien. Ce n'est pas qu'une révolution politique comme on a pu la voir là, il y a 15 jours hein, sur la Révolution française. C'est-à-dire que vraiment, on est dans une situation où la population rurale qui est ruinée en Angleterre va dans les villes, où on a des centres urbains qui vont de plus en plus se créer et une organisation qui va permettre l'émergence d'une nouvelle richesse. En même temps, la relation de chacun dans ce nouvelle organisation du travail, elle a quand même des choses qui ont besoin d'être modifiées. Au Moyen-Âge, vous rappelez, on est souvent dans des corps qui font que dans chaque ville, c'est les compagnies de gens par métier qui s'organisent et tout le monde ne peut pas faire n'importe quel métier. Et on va arriver à un système où justement, pour pouvoir permettre le développement économique, on va modifier ce rapport-là. Hein, en France, avec la loi Le Chapelier, où on va dire où chaque citoyen peut maintenant, soi-disant par égalité, postuler à n'importe quel emploi. Je dis soi-disant par égalité, parce qu'en même temps, je rappelle que la loi Chapelier interdit le droit de grève. Hein, mais surtout, on se retrouve... D'organisation, de... Donc, tout cela... Alors, il y a le pendant en Angleterre, hein, aussi, de la loi Le Chapelier, qui est pas... qui précède la loi française de 15 ans, mais on se retrouve donc dans une situation où avant, on était formé pour un métier, on était reconnu par la congrégation qui organisait ce métier comme étant un maître charpentier, un maître couvreur, etc. Et donc, on éclate complètement ce rapport au travail, hein, on n'entre plus dans un métier, on devient son propre agent capable de se louer à celui qui a du travail à vous offrir. Dans ce nouveau rapport, la loi présuppose, et l'écrit directement, qu'il y a un rapport d'égalité, soi-disant, entre le patron et le salarié. Quand je dis soi-disant d'égalité, en même temps, il y a un certain nombre de choses qui sont inscrites dans la loi, notamment dans la loi française sous Napoléon, avec le Code civil, qui dit ouvertement qu'en cas de désaccord sur le montant du salaire entre le patron et l'ouvrier, la justice donnera et croira toujours le patron. Hein, c'est un des articles du Code civil voté qui explique ça. C'est qu'en 1866 qu'on reconnaîtra l'égalité de parole entre l'ouvrier et le patron. Pendant toute la période, on met en place une inégalité. Deuxième particularité de la période aussi, toujours sur cette période-là, c'est la création du livret. Pour ceux qui savent, c'est ce livret qui fait qu'il faut montrer avec qui et pour qui on a travaillé, savoir où on a été tout le temps. Et si on n'a pas ce livret, c'est qu'on est considéré comme vagabond. Et si on est vagabond, on est donc condamnable. Donc, c'est un moyen aussi de surveillance de la part de la police et des patrons pour se retrouver dans une situation de domination. Et c'est vrai que toute la période qui va, ce mot, jusqu'aux premières lois Millerand, hein, c'est 1900, on est vraiment dans une période très d'inégalité, puisque le progrès, l'industrialisation, se fait d'abord dans un rapport complètement inégal entre celui qui a le bien à transformer et celui qui transforme le bien. Et tout le 19e siècle va être marqué par des luttes qui vont être des luttes de conquête de droits et de reconnaissance de droits. Hein? Alors, tout ne va pas arriver d'un coup, loin s'en faut, hein, entre les premières lois, hein, le Code civil sur Napoléon, le code pénal aussi, hein, qui criminalise un certain nombre de choses, le carnet, toutes ces lois, c'est 1802-1804. Et 1900, c'est-à-dire les premières lois, j'ai envie de dire, importantes sur le droit du travail, vous voyez, il y a un siècle. Entre les deux, il y a quand même eu des avancées, des reculs et des luttes. Sur la période qui nous intéresse, c'est-à-dire qui aboutit à 1848 et la création de la Seconde République, avec toute une série de propositions de loi, dans cette période-là, en France, il y a une grande révolte qui va marquer le mouvement ouvrier, j'ai envie de dire, la symbolique, etc., c'est la révolte des Canuts qui a lieu à Lyon. Alors pourquoi à Lyon? D'abord parce qu'il y a une différence entre Paris et Lyon. Pas trop en nombre, même si Lyon, dans sa population et son agglomération, c'est 150 000 personnes. Mais à Paris, quand il y a une crise, la main-d'œuvre a la capacité, la possibilité de changer de branche. À Lyon, il y a une industrie dominante. C'est la soierie. Et il faut bien se représenter ce que ça représente. Sur 150 000 habitants, on a 40 000 personnes qui sont occupées directement par cette industrie, qui habitent en centre-ville, du côté de la Croix-Rousse et de ces quartiers-là, généralement dans des logements insalubres. La question de l'hygiène n'est pas la priorité. Mais en même temps, cette population est constituée de trois grands groupes. Quand je dis trois grands groupes, c'est pour les hommes. Après, il y a les femmes et les enfants. Le premier groupe, c'est les patrons. C'est ceux qui achètent la matière première et la donnent pour la transformation. Le deuxième groupe, c'est ceux qui détiennent les métiers à tisser. Ils en détiennent généralement entre 2 et 6 de métiers à tisser. C'est eux qu'on appelle les canuts. Et qui emploient eux-mêmes des ouvriers. Et on est à peu près sur un rapport de 1000 patrons, 8000 canuts, 30 000 ouvriers. Et après, derrière, vous avez toute une série de métiers assurés par des femmes et des enfants. Je ne vous ferai pas la liste. Mais Dans ce livre, vous en apprenez beaucoup hein, sur le détail des métiers, la souffrance dans les métiers. Mais en même temps, cette catégorie sociale, d'abord, elle est regroupée. Ça, c'est une particularité par rapport au reste de la France où, certes, vous avez le début des fabriques, mais vous avez peu d'endroits où vous avez une concentration aussi importante de gens. Deuxième particularité, les maîtres canuts sont plutôt des gens cultivés pour l'époque, c'est-à-dire qu'ils savent lire et écrire. Et donc, dans ce milieu-là, il y a une diffusion des idées importantes. Et d'ailleurs, le premier journal ouvrier qui est créé en France, hein, qui s'appelle La Fabrique, est créé à Lyon, un an à peu près avant le début de la révolte des canuts. Donc on a une concentration qu'on n'a pas ailleurs. On n'a nulle part ailleurs 30 000 personnes capables de se mobiliser. Ça ne veut pas dire que les 30 000 vont se mobiliser, mais ils se mobilisent. Dans les périodes de prospérité, dire, tout le monde peut à peu près y trouver son... Il peut à peu près considérer que tout le monde va à peu près bien. Mais il se trouve que deux ans, trois ans avant la révolte, en 1827, il y a une vraie crise hein, du secteur. C'est une industrie qui est très liée à la conjoncture. Et quand ça va mal, ça va mal. Et donc, on se retrouve dans une situation où les ouvriers perdent en termes de salaire et les canuts aussi. Donc, deux catégories sociales qui considèrent que on ne les paye pas alors juste à la juste mesure du travail qu'ils effectuent. Et donc, ils sont en train d'essayer de s'organiser dans une société secrète parce que le droit à l'organisation est interdit, je vous rappelle. C'est là où je reviens sur... J'avais oublié le code pénal de Napoléon, puisqu'on interdit le droit d'association au-dessus de 20 personnes. Et donc, ils sont obligés de se structurer en société secrète. Et à leur tête, ils ont quelqu'un qui a été dans les armées napoléoniennes et qui il lui est resté quelques souvenirs. Et donc, ils s'organisent par groupe de 20, jamais plus, qui eux-mêmes désignent dans leur sein un responsable et un secrétaire. Et le responsable et le secrétaire se réunissent en groupe de 20 pour aller ensuite dans les rues développer leur point de vue et exiger une chose. Qu'est-ce qui se passe au départ? Les prix chutent, les salaires baissent et les gens travaillent, vous imaginez, entre 15 et 18 heures par jour. D'accord? 15 et 18 heures par jour. Il n'y a rien, pas de limitation de travail, ni pour les enfants, ni pour les femmes, ni pour les hommes. Il n'y a rien. Ils dorment dans des logements insalubres et la moyenne d'espérance de vie est de 35 ans. Donc, ils s'organisent en disant « c'est plus possible ». Leur première revendication, c'est d'obtenir un prix correct, pour un salaire correct, pour les canuts comme pour les ouvriers. Et là, il y a une union entre les deux. Hein, faut aussi s'imaginer ça. Cette revendication, elle est structurée. Ils se réunissent, ils arrivent à obtenir, et le préfet lui-même, qui est le représentant de l'État, dit « effectivement, les patrons ne payent pas assez ». Et s'ils n'augmentent pas les prix, on va vers la catastrophe. Résultat, il se retrouve à un moment donné, le préfet lui-même a obligé les patrons à venir négocier. Il y a une négociation qui a lieu et qui aboutit au bout de 48 heures, je passe sur les détails, au fait qu'ils tombent d'accord sur un prix minimum. C'est première base des prix minimum. Tout pourrait s'arrêter là. Mais il se trouve qu'il y a 140 patrons qui décident de ne pas appliquer le prix. Et la révolte part de là. Hein, on est au mois de novembre 1831. Alors que la mobilisation dans ses formes classiques, même si c'est difficile de dire classique à cette époque-là, aboutit à une négociation, à un accord, où chaque partie peut considérer qu'elle n'est pas complètement perdante et que l'autre a plutôt gagné, hein, ce qui est dire les formes de la lutte syndicale, même si on ne peut pas l'appeler comme telle. Mais il se trouve qu'une partie, les patrons, décident de refuser d'appliquer le prix minima. À partir de là, on est dans les journées de novembre 1831, où les canuts se mobilisent. Quand je dis les canuts, c'est que vous avez tout d'un coup 20 000 personnes qui se mettent en mouvement et qui prennent d'assaut les centres urbains, l'hôtel de ville, les casernes de Lyon. Ils saccagent rien. Je dis pas que la lutte n'a pas fait des victimes, hein. Il y a à peu près 200 morts, hein, sur la prise de Lyon, sur cette période, 125 du côté de l'armée et un peu moins du côté des canuts. Ils s'arment, etc. L'armée s'en va, mais quand ils ont envahi l'hôtel de ville, le maire, qui s'appelle Prunel à l'époque, s'en va, mais ils ne saccagent pas l'hôtel de ville. Ils sont pas dans on a pris le pouvoir, on va tout saccager, etc. Ils sont toujours dans la lutte où ils veulent obtenir l'application d'un accord qui a été concocté devant, pour eux, le préfet. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un mouvement qui pousserait, j'ai envie de dire, à aller plus loin. Mais en même temps, ça a une résonance par rapport à ce qui s'est passé quelques mois plus tôt. 11 mois plus tôt, plus exactement, en 1830. En 1830, c'est les journées de juillet. Dans ce pays, il y a, je ne sais pas si vous vous rappelez, Charles X, qui vient de succéder à, j'ai oublié le nom de l'autre. Qui est-ce qu'a...
Louis XVIII.
Louis XVIII, hein. En principe, c'est lui, hein. Moi, les rois, j'ai toujours eu des creux. Voilà. Louis XVIII, voilà. Charles X arrive au pouvoir. On est à peu près dans un système, j'ai envie de dire, de monarchie constitutionnelle. Il y a une charte qui est en place, qui permet le maintien d'une représentation parlementaire avec des partis en présence, etc., avec les royalistes, etc. À l'arrivée de Charles X, les royalistes considèrent que c'est le moment où la noblesse va pouvoir reprendre le pouvoir. Et les premiers actes de Charles X, c'est de dissoudre l'Assemblée, ça vous rappelle peut-être quelque chose, pour obtenir une majorité de royalistes plus conséquente. Il se trouve qu'à l'arrivée, malheureusement pour lui, les royalistes sont très largement battus et c'est plutôt la branche dite à l'époque républicaine qui l'emporte. Que fait Charles X? Il décide à ce moment-là de dissoudre de nouveau l'Assemblée, de suspendre les libertés et de suspendre la charte en disant par ordonnance, voilà, il n'y a plus de pouvoir démocratique. La bourgeoisie de l'époque se laisse pas faire et en appelle au peuple de Paris. Hein, ce qu'on va appeler les 3 journées. Et donc, Charles X est destitué, hein, dans les 3 journées. La bourgeoisie a fait appel au peuple. Et c'est vrai que le peuple, à ce moment-là, a considéré que le rétablissement de la bourgeoisie et de la démocratie dans la monarchie parlementaire pouvait lui permettre d'obtenir un certain nombre de choses. Et un an plus tard, si la bourgeoisie est plutôt satisfaite du nouveau régime, les ouvriers, ceux qui ont participé, pas forcément à Lyon, mais à Paris, à la mobilisation, ont le sentiment que dès qu'il faut défendre la bourgeoisie, ben, on fait appel à eux. Mais dès qu'il faut partager ce pouvoir, on leur retire toute possibilité d'expression. On rappelle que la monarchie, même si elle est parlementaire, elle est quand même censitaire et qu'il faut payer un impôt pour pouvoir avoir le droit de vote. Et qu'il ne faut pas simplement payer un impôt, il faut aussi être résident depuis plus de 3 ans dans la même habitation pour pouvoir s'inscrire. Or, la caractéristique des ouvriers de l'époque, c'est qu'ils bougent beaucoup parce que l'emploi bouge. Donc, voilà, on a eu une révolution à un moment donné qui destitue Charles X et installe le duc d'Orléans, hein, Louis-Philippe. On rétablit un système. Et en attendant, ceux qui ont été les plus en avance, qui ont participé de ce mouvement, qui sont les ouvriers et le peuple, ne tirent pas profit. Et c'est vrai que 11 mois plus tard, la révolte des canuts est aussi une expression de ce mécontentement-là, même si dans les revendications, vous n'avez pas trouvé la revendication du suffrage universel, etc. Mais vous sentez que dans les réunions politiques qui ont lieu à la période à Lyon, ces questions-là avancent. Hein? Donc, bon, malheureusement, j'ai envie de dire pour les canuts, on sait comment ça se finit, hein. On a ce qu'on va appeler la semaine sanglante. Ça va être une semaine terrible. Si je me rappelle bien, on est à plus de 2 500 morts. Donc c'est pas rien, hein, sur la population des canuts. Bon. Donc ils n'ont pas gagné. Dis bon. la révolte, enfin, en plus parce que c'est 31, c'est 34, enfin, ils sont mobilisés, enfin, ils se sont organisés à plusieurs reprises. Mais en même temps, il y a une chose qui est restée de ces luttes-là, au-delà du fait que tout le monde connaît le chant des canuts, c'est que on se retrouve dans une situation où progressivement, sur tout le reste de la France, va se passer trois revendications centrales qui vont être la matrice, je veux dire, du mouvement syndical, etc. Hein, c'est le droit d'organisation et d'association. La grosse revendication de cette période-là, qui va se retrouver après, en 1848, sur les premières lois, mais qui va aussi se retrouver dans les premières lois avant 1900, hein, dès 1860, même sous la monarchie, on arrive à avoir pour la première fois des lois qui tolèrent au moins le droit de grève et le droit d'organisation. C'est les premières revendications, elles concentrent d'abord ce droit-là, ce droit à pouvoir faire grève et ce droit à pouvoir s'organiser. Avant d'obtenir, j'ai envie de dire, des droits sur la réduction de temps de travail, les premières lois vont se concentrer là-dessus. Deuxième loi, hein, mais qui vont arriver, elles, après 1870, donc vous aurez vu, vous aurez la Deuxième République, puis la Commune de Paris, c'est les lois sur la réduction de temps de travail. C'est qu'après la Commune de Paris qu'arrivent les lois sur la réduction de temps de travail. Pourquoi? Là, la revendication, elle est ancienne et elle existe dès les Canuts, et même un petit peu avant, on a des premières révoltes du côté de Lille, du côté des premières mines. Parce que en 1870, au-delà de la Commune, il y a d'abord une défaite militaire. Et que la première analyse de la bourgeoisie sur la défaite militaire, c'est que cette défaite, c'est aussi le fruit du fait que, en faisant travailler les enfants trop tôt, quand ils sont en âge de se battre, ils ne sont plus en capacité de se battre. C'est pas toujours pour le bonheur et le bien-être. Oui, non, mais le compromis entre ceux qui dirigent et ceux qui revendiquent ne se fait pas toujours à vos arguments. L'argument premier qui fait qu'on a une première loi qui intervient pour interdire le travail des enfants de moins de 12 ans, qui limite le travail, quand je dis les enfants de moins de 12 ans, virgule, il y a toujours des exceptions. Qui limite le temps de travail pour les enfants de 12 à 13 ans, à 8 heures, et qui ne limite pas le temps de travail, aucun temps de travail pour les enfants de 13 à 16 ans. C'est ça les premières lois. Hein. Le premier argument qui fait que ça emporte les suffrages à l'Assemblée, c'est aussi parce qu'on a une défaite militaire et qui considère qu'effectivement, on n'avait plus de jeunes en capacité de se battre au moment où ils devaient se battre. C'est dans les minutes de l'Assemblée, et c'est vrai que c'est assez. Quand on lit cet argument, on se dit c'est pas vrai. Eh bien, si, c'est quand même un argument qui est avancé par un certain nombre de camps. Alors, sur dire l'histoire du droit du travail, si on veut le classer en période, il faudrait d'abord dire que jusqu'à 1800, un peu moins de 1850, c'est d'abord un droit de négation du droit du travail, d'une négation du droit d'organisation, de négation du droit de grève. La première partie, la constitution, j'allais dire, du système capitaliste, s'organise d'abord en niant complètement et en faisant même que dans les lois, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, il y ait la possibilité de s'organiser. Hein, si on veut reprendre, hein, les lois de Chapelier, la réglementation sur le travail et manufacture, le livret ouvrier, l'article du Code civil qui stipule qu'en cas de litige entre le salarié et le patron, c'est le patron qui a raison, tout ça, c'est cette période-là. Hein. Et on commence, j'allais dire, à avoir un début de renversement un petit peu avant 1848, en fait, en 1841, par une loi inspirée par les travaux de Louis-René Villermé. Alors, c'est un médecin qui a fait les guerres napoléoniennes, mais qui n'a pas fait que ça. Hein, il a été aussi surtout sociologue après. Et il est considéré comme l'inventeur de la médecine du travail. Hein, c'est le premier à s'être intéressé en tant que médecin à la condition ouvrière. Il a écrit des ouvrages là-dessus. Et on considère, pour ceux qui sont dans la branche de la médecine du travail, que c'est le fondateur, le père de cette médecine du travail. Parce que quand on parle de la revendication ouvrière et des mouvements ouvriers, ou en tout cas des droits, Il y a la question des droits portés par les syndicats, les organisations ou ce qui a précédé, mais il y a aussi deux autres éléments qui sont souvent sous-estimés. C'est la question de l'hygiène et de la sécurité. Or, c'est un des aspects très importants à l'époque prend deux aspects. Un, d'abord parce que les progrès de la médecine sont importants. On a toute une série de découvertes. Bon, c'est Pasteur, c'est au début, c'est en 1905 ou 1906, découvre le vaccin contre la rage. Mais avant, on a eu la découverte de la morphine. On a la découverte de tout ce qui permet de soigner la tuberculose, etc. Donc, un, on a des progrès, la médecine. Ça, c'est important, parce que ça permet évidemment de faire évoluer. Et deux, il y a des revendications qui accompagnent ça. C'est-à-dire que le fait de laisser une partie de la population croupir dans des états de santé déplorables, il y a toute une série de personnes qui s'intéressent à ces questions-là et revendiquent, et pas simplement parce qu'ils seraient des représentants des ouvriers. Il y a des corps, une partie du corps social qui s'intéresse à ces questions-là. Ça donne naissance à tout ce qui est les bases de ce qu'on va appeler la branche hygiène et sécurité, qui va devenir aujourd'hui qui reste sans doute de plus solide dans les piliers des droits aujourd'hui des salariés. Et puis le troisième, c'est la fondation quand même dès cette période, ça c'est une question qui est intéressante, de l'inspection du travail. C'est-à-dire que les prémices, c'est en 1860, dans une des lois sur la réduction de temps de travail, adossé à ça, une loi qui dit on instaure une fonction qui s'appelle l'inspecteur du travail et on lui donne les moyens de fonctionner. Alors, malheureusement, cette loi, on va montrer que, un, ils n'ont pas eu les moyens de fonctionner, ils n'avaient pas de moyens financiers, ils avaient très peu de personnel, mais au moins pour la première fois dans le droit, est inscrit qu'il y a un corps de contrôle qui peut aller exiger qu'on regarde les livres des patrons, c'est-à-dire qui est employé, à quel titre, pourquoi, et qui devrait, en théorie, permettre ensuite d'imposer au patron de respecter un certain nombre de règles. Les premières règles étant très limitées aux questions d'hygiène et de sécurité et aux questions de temps de travail sur les enfants. C'est les premières bases. C'est la création de l'inspection du travail, c'est 1874. Donc on est quand même juste après les premières lois, mais c'est quand même ancien, même si on considère que sa capacité d'intervention, en fait, dans la loi, sa capacité d'intervention va attendre encore plus de 20 ans avant que derrière la loi, il y ait une réalité de l'inspection du travail capable, au moins, de pouvoir faire appliquer un certain nombre des règles émises. Donc, dans les trois périodes qui nous occupent, la première période, je l'ai dit, c'est une négation de tout droit, avec une sanction. Il faut quand même pas oublier qu'en termes de droit politique aussi, l'abolition de la peine de mort pour un délit politique, c'est la Seconde République. Avant, on a encore le droit de condamner quelqu'un à mort pour délit politique. Donc on n'est pas dans une société tranquille. Le droit d'organisation l'interdiction du droit d'organisation n'est pas limitée que aux questions salariales, pour les partis politiques aussi. Et d'ailleurs, si on veut bien se rappeler, on a, en France en tout cas, la constitution des organisations syndicales et de la CGT qui arrive et qui précède la constitution et le développement des partis politiques. Mais avant le syndicat CGT, les premiers mouvements, c'est autour des bourses du travail et de la question de la solidarité. Et ça, c'est le dernier volet. C'est-à-dire que la dernière revendication, une grande revendication de cette époque, c'est la question de la solidarité, c'est-à-dire des caisses de secours qui vont être organisées d'un côté par les bourses du travail et tout le mouvement qui va être autour du mutualisme et du mutualisme, mais aussi, au moment de la Seconde République, par la création des ateliers nationaux et l'idée que on peut chacun contribuer et que l'État, c'est la seule République qui inscrit ça en droit et en fait, et qui dit qu'elle donne du travail à chacun des salariés. Quand je dis en droit et en fait, c'est que ça va durer de février à mars, grosso modo. Ben oui, mais c'est une république très particulière parce qu'elle met en place énormément de choses. Enfin, elle met en place dans la symbolique, dans la réalité, énormément de choses qui sont toujours très intéressantes à étudier. Même aujourd'hui, quand on regarde les droits sur lesquels on veut s'appuyer pour pouvoir les défendre. Mais en même temps, la Chambre qui a été élue juste après a d'abord organisé l'abrogation des lois sociales votées par le début de la Seconde République. Donc en fait, la Seconde République a élu une assemblée qui a organisé elle-même l'abrogation des avancées sociales. Voilà, et qui. Mais on ne peut pas non plus ne pas s'intéresser aux travaux qui ont été faits, aux textes qui ont été déposés, à tout ce qui a été fait autour de la Commission du Luxembourg, parce que c'est une vraie période d'émulation sociale et d'avancée, même si elle n'est pas rentrée dans les faits. C'est quand même quelque chose qui reste, hein, et qui permettra après de faire avancer. Alors, pour revenir sur la question de la solidarité, il y a les bourses du travail, hein, et c'est vrai que la Seconde République permet et propose ça sur une philosophie qui est toute simple. Celui qui travaille donne une part de son travail pour que le moment où il ne travaille pas, on puisse, nous, par solidarité, lui assurer un revenu. Débat entre période de travail et période de chômage et déconnexion ou connexion entre un revenu assuré et la question de travailler ou ne pas travailler. C'est important philosophiquement parce que ça va matricer les débats du mouvement ouvrier pendant des décennies. C'est-à-dire ce qui a été mis dans les bases, que ce soit à Lyon avec les CANUP parce qu'ils ont mis en place une caisse de solidarité ou que ce soit dans les textes de la Seconde République, on a eu des mouvements qui sont basés là-dessus et qui aboutissent, si on veut faire des raccourcis, à tout ce qui est la création des éléments à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, avec la sécurité sociale, les branches de solidarité, retraite, etc. C'est-à-dire tous ces éléments-là, si on veut regarder le fil conducteur, on est dans une situation où les prémices ont été posées dans ces périodes-là. Et toute la difficulté, souvent, quand on fait l'histoire du mouvement ouvrier, d'abord, c'est que c'est rarement l'histoire qui est mise en avant. Vous regarderez dans un rayon d'histoire, vous pouvez facilement avoir 40 bouquins sur Napoléon Bonaparte. Le droit social sous Napoléon Bonaparte, faut trouver une page dans les bouquins. Non, mais c'est quand même une des difficultés qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a une dénégation. Le droit social n'existe pas. Et l'histoire de ce droit comme issu d'une histoire, d'une fierté, d'une mobilisation, de quelque chose qu'il faudrait transmettre, elle n'est pas dans les livres. Non, mais ça, c'est aussi important quand on veut comprendre et chercher à savoir pourquoi tout d'un coup telle revendication est apparue. Ben, généralement, on ne trouve pas. Parce que rien ne permet de mettre bout à bout l'ensemble des luttes, ce qui s'est passé à un endroit, ce qui s'est passé à un autre, de la coordination des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on fait comme si les éléments étaient séparés, ou quand il y a un événement comme les CANU, on parle d'une révolte dans un coin, mais on ne la lie pas à une tradition qui est aussi pour partie la suite de la Révolution française. Il faut jamais oublier qu'on n'est pas déconnecté de ce qui s'est passé avant, et qu'il y a une tradition, qu'ils se sont passés, qu'un certain nombre de gens qui étaient à l'initiative de la révolte des CANU ont participé eux-mêmes, beaucoup plus jeunes, ou ont connu la Révolution française, et que la Révolution française s'était pas cabarée. Donc voilà, c'est ces filiations-là qu'on coupe généralement et dont on ne peut pas ignorer. Donc l'histoire du droit en matière de droit du travail et des droits des travailleurs, elle est vraiment née sur cette période-là. Bien sûr, par un truc très classique que dirait Marx beaucoup mieux que moi, c'est qu'il faut qu'il y ait une bourgeoisie qui apparaisse et que dans ce cadre-là, on est dans une situation où il y a une concentration de travailleurs à un endroit qui permet l'émergence d'une autre catégorie face à la bourgeoisie qui s'appelle le prolétariat. Hein, et si vous voulez comprendre, on va dire 1848, il y a un excellent bouquin qui s'appelle Les luttes de classe en France. C'est un grand classique. Hein. C'est très rapide à lire. Et ça permet vraiment de comprendre, oui, ça, vraiment, ça permet de comprendre ce qui s'est passé dans cette période-là, hein, sur cette année et demie. Lui, il traite pas toute la période, hein, de la République, mais il analyse bien les rapports de classe, et il analyse le fait qu'il y a effectivement, dans cette période de la Révolution industrielle, deux classes qui émergent, l'une la bourgeoisie, qui revendique et qui organise le pouvoir à ses fins, et elle va tout faire, tout mettre en place et en œuvre pour avoir des institutions qui lui permettent d'avoir le pouvoir, qui de temps en temps se retrouve confrontée avec une autre partie, soit la noblesse, soit une partie de la bourgeoisie, et de l'autre, il y a le prolétariat qui met du temps. D'abord parce qu'il faut d'abord qu'il s'organise, qu'il se concentre, et qui, une fois qu'il est organisé, qu'il est concentré, est capable et en mesure de revendiquer, de porter des revendications sur son propre bien-être. Donc voilà, c'est des étapes qui n'ont pas eu lieu qu'en France. Moi, je me suis concentrée sur la France, mais en Angleterre aussi, on a toute une série de mouvements. Je l'ai dit en introduction, aux États-Unis, on est dans autre chose. Hein, parce qu'on est sur la période de la constitution de l'indépendance d'un côté et du débat sur État libre et État esclavagiste. Hein. Toute cette période-là, jusqu'à la guerre de sécession, va être complètement matricée par ces questions-là. Mais même dans cette période-là, du côté de Chicago, on commence à avoir les premières organisations, les premières grèves, les premières revendications. Et d'ailleurs, à la fin de ce siècle, c'est aux États-Unis qu'a lieu la première manifestation revendication, un 1er mai. Pour la journée de travail du 8 mars, ce n'est pas la première manifestation, mais celle-ci est particulière parce qu'elle se finit dans un bain de sang et que l'année d'après, toutes les organisations syndicales prennent ce jour-là pour devenir la journée du travail, même si aux États-Unis aujourd'hui, le 1er mai ne se fête pas le 1er mai, mais en septembre. Ça, c'est des particularités des Américains. Donc, voilà, on est dans ces traditions et ces continuités. La révolution industrielle, elle a joué un rôle éminent, hein, dans ses développements, dans ses structurations et dans son nouveau rapport au travail. Mais dans ce nouveau rapport au travail, au point de départ, il y avait une vraie volonté de créer une inégalité qui reste. Il n'y a pas de rapport d'égalité dans un contrat de travail entre un patron et un employé. Il n'y en a pas. Donc il ne faut pas croire quand on vous dit qu'il n'y a pas de rapport d'égalité. Et toute la lutte et le mouvement social, c'est d'obtenir des garanties, d'où l'enjeu du Code du travail, d'où l'enjeu des droits, parce que c'est évidemment sans droit et dans le rapport un pour un qu'on peut vous dire t'es pas content, il y a 10 chômeurs à côté. Ce discours-là, on l'entend aujourd'hui, on l'entendait déjà à l'époque. Donc on est dans une structuration où la question du droit est aussi essentielle dans ce qu'elle apporte comme garantie aux salariés. Sans droit, sans avoir mis noir sur blanc un certain nombre de textes, on n'a aucune capacité à pouvoir défendre les uns et les autres. À partir du moment où il y a des textes, il y a des règles et elles doivent s'appliquer à tous. La bataille ensuite, hein, dans l'histoire syndicale, c'est d'obtenir que ces règles soit plus favorable aux salariés, avec des avancées et des reculs. Alors là, je sors de l'exposé, mais récemment encore, au nom de l'égalité, les femmes sont en train de perdre un certain nombre d'avantages sur les retraites. Elles ont déjà perdu il y a quelques années le fait qu'il y avait une interdiction de travail de nuit des femmes. Sauf exception à un certain nombre de secteurs. Ça a été généralisé au nom de l'égalité. Là, c'est sur la question des retraites. Demain, ça sera sur d'autres questions. Vous aurez remarqué que cette bataille pour l'égalité, là, se fait jamais pour dire, ben, si les femmes ne travaillent pas la nuit, ça serait bien que les hommes ne travaillent pas la nuit. Ça peut être utile pour d'autres choses. Ben non. Voilà, c'est toujours en faisant reculer le droit. Donc, le droit du travail, c'est une histoire de rapport de force aussi. Dans cette période-là, qui va jusqu'à 1850, 1860, c'est les premières armes. Il faut bien s'imaginer que tout ce qui a été conquis s'est jamais fait sans sang. Mais que la violence n'est pas portée forcément, loin s'en faut, par ceux qui portent la revendication. Même si on a beaucoup criminalisé les mouvements sociaux comme on a plutôt tendance à le faire aujourd'hui. Hein, souvent à l'époque, c'est telle grève, 250 morts, 50 morts, tant d'arrestations, etc. Évidemment, le summum, j'ai envie de dire, ça sera la commune avec 25 000 déportés. C'est énorme. Hein. Voilà, ça sera de morts. Donc, on est dans des périodes dures. Aujourd'hui, on n'est pas forcément dans les mêmes périodes dures. Mais le niveau d'acceptation de la violence, c'est pas le même aussi. C'est-à-dire que ce qui pouvait paraître normal en étant mort là plutôt que sur une machine, aujourd'hui, personne n'accepte de mourir. Même s'il y a des morts au travail aujourd'hui. Même si l'inspection du travail est un des secteurs où il y a le moins de postes en capacité de pouvoir appliquer les textes. L'une des grosses revendications aujourd'hui, ce serait simplement le fait que l'inspection du travail ait les moyens d'appliquer les textes qui sont en vigueur, sans parler des reculs ou des avancées de ces textes. C'est l'un des enjeux. Alors, quand on voit aujourd'hui, hier, on dit qu'on a avancé énormément. C'est vrai, hein, par rapport à 15-18 heures de travail aujourd'hui, c'était 72 heures il y a peu. On est dans une autre situation. En même temps, quand on regarde le droit européen sur le routier, les routiers, on n'est pas loin des horaires des premières lois Millerand. Voilà, hein. On était sur les lois de 1900 hein, qui légifèrent en quelques mois sur le droit du travail des enfants, le droit des femmes, et pour la première fois sur une limitation. C'est la première fois qu'il y a une limitation qui concerne toute la population salariée. Hein, c'est en ça que c'est une loi que les lois Millerand sont importantes. C'est-à-dire que pour la première fois, on ne dit pas seulement une catégorie a le droit de travailler moins, tout le monde est tenu par un même horaire complet. Après, ce n'est pas le même horaire si on est un homme, une femme, mais pour la première fois, y compris les hommes, ils se retrouvent dans une situation où on dit « Vous ne pouvez plus travailler plus de 13 heures par jour, vous ne pouvez plus travailler plus de X, et vous avez le droit pour la première fois au repos dominical. » C'est cette période-là. Hein. Et quand on regarde ces lois-là et qu'on regarde aujourd'hui le droit européen sur un certain nombre de cadres, on n'est pas loin de ces situations-là. Donc, ce n'est pas pour faire du... Je viens de dire en conclusion du misérabilisme, mais c'est pour dire que toutes les conquêtes, elles sont nées d'abord de luttes qui ont souvent précédé l'organisation de structures, hein, qui sont nées après. Parce que c'est dans la lutte que des revendications sont nées et que certaines de ces revendications ont, pour être portées, nécessité, trouvé normal comme débouché de pouvoir se structurer. Mais aussi parce que les lois interdisaient au droit d'association, au droit de se syndiquer, au droit de faire grève. Donc les deux étaient liés. Et puis, on a eu toute une période où on peut considérer qu'on a eu des vraies avancées sociales, avec des grandes dates hein, qui vont, je le dis, hein, des lois Millerand, après on a 36, après on va aller en 45, après on va sauter un petit tour, on va faire les 30 glorieuses, et puis on va faire 68, puis on va faire les lois Auroux, si on veut regarder dans la progression. D'accord. Après, on a une loi Fillon, donc ça redescend un peu. Voilà. Mais on a des périodes de progression et de mobilisation dans tous les pays européens et au-delà, et avec d'autres dates qui ont été importantes aussi, hein, qu'on ne traite pas ce soir, c'est l'instauration et la création de l'OIT, c'est-à-dire le fait que la question du travail déborde des questions nationales et devient une question internationale où une norme s'applique à tout le monde, hein, et qu'il n'y a pas que l'ONU qui a des normes internationales, il y a aussi la question du travail qui devient une norme internationale qui devrait s'appliquer à tout le monde. Donc tout ça est une progression, mais pour beaucoup, cette période qui va de 1800 à... Moi, j'irai jusqu'à 1880, a vu naître deux choses. Un courant syndical, mais aussi un courant politique. Hein, et tout ça était un peu lié. Hein, c'est dans cette période que vous avez des courants comme Saint-Simon, comme Proudhon, Blanqui. Et il y a un mélange, il n'y a pas la même séparation qu'il peut y avoir encore aujourd'hui. Et ceux qui font de la politique font du syndicalisme. Ceux qui font du syndicalisme font de la politique. et ils réfléchissent ensemble. Il n'y a pas cette séparation-là, mais parce que c'est aussi dire ce qui reste de la Révolution française et qui se transforme progressivement en courant politique, en débat. Hein, ils ne sont pas tous d'accord, hein, entre Proudhon, Marx, Blanqui, vous allez avoir des courants qui vont donner naissance à des choses complètement différentes, y compris des courants chrétiens qui vont donner naissance à des engagements, à des structurations comme l'AJOX. C'est aussi les premiers éléments de certains mouvements d'organisation de jeunesse ne se font pas simplement dans un cadre politique. Hein? Mais il y a un vrai foisonnement. Si vous prenez les 50 penseurs, entre guillemets, qui sont de cette période-là, ils sont souvent penseurs et acteurs. Ils sont pas, il n'y a pas le penseur dans son coin, ils sont penseurs et acteurs. Et beaucoup des mouvements politiques, associatifs, culturels aujourd'hui sont souvent des reprises, des continuités de ce qui a été écrit et pensé dans ces périodes-là. Voilà. C'est pour ça que cette période, elle n'est pas toujours connue. Ou quand on l'étudie, on fait Napoléon, on fait les rois, et on fait la période en disant c'est une période tumultueuse pour la France. Hein. C'est deux républiques, deux empires, deux révolutions. Donc il y a beaucoup de choses. Hein. Et puis on passe vite tout de suite à 1914. Or cette période-là est très riche dans la structuration de notre propre histoire. Hein, on a souvent tendance à l'oublier, même dans la partie historique qu'on fait sur les cycles, on passe très vite de la Révolution française à 1914. On passe de temps en temps un peu de temps sur un des aspects. Hein. C'est-à-dire on va faire un bout Napoléon et les guerres napoléoniennes avec les grandes victoires et les grandes défaites aussi. Parce qu'il y a pas eu des... Ça a commencé par une défaite et ça finit par une défaite. Ça commence par Trafalgar, voilà, qui est quand même une des plus belles défaites maritimes. Voilà, mais c'est un peu dommage qu'on passe pas assez de temps à étudier, moi je trouve, hein, la période très particulière des renversements, des ruptures et des changements de régime et de tous les mouvements qui ont pu naître de cette période. Étudier le blanquisme, étudier Saint-Simon, c'est quand même étudier Fourier. Voilà, je trouve que ça mériterait des fois d'y passer plus de temps.